Donc voilà. En fait, l'objectif, c'est de faire une découverte plus globale de la liturgie et comment l'Église comprend sa prière et comprend sa liturgie. Il faut savoir que le Concile Vatican II, c'est la première fois dans un concile, dans un texte très important du magistère. Avant, il y avait eu une encyclique seulement, hein, qui avait parlé un peu de la liturgie. C'est la première fois que l'Église disait vraiment qu'est-ce que la nature de la liturgie, ce qui se passe dans la liturgie. Et donc, le Concile Vatican II, dans le document Sacrosanctum Concilium, qui a été le premier document voté par les pères du Concile, qui était un document qui a fait l'unanimité entre tous les pères du Concile, hein, même Mgr Lefebvre, alors qu'après ça s'est gâté, mais à ce moment-là, tout démarrait bien. Eh bien, dans ce document, il y a un paragraphe, enfin plusieurs paragraphes, mais un chapitre, hein, la nature de la liturgie, son importance pour la vie de l'Église, où on a une sorte de définition de la liturgie. Donc, c'est ce que j'ai abordé à la fois précédente, pour ceux qui s'en souviennent. Donc voilà, mais je vais redire quelques points juste pour enregistrer, parce que la dernière fois, je n'avais pas enregistré, et en plus, justement, parce que c'est très important, parce que si on ne part pas de ça, après le reste, à mon avis, on est dans les flottements. Hein. Après, on peut toujours contester un peu tout, parce que si on n'a pas la source réelle, la compréhension réelle de ce que l'Église veut vivre dans sa liturgie, ce qu'elle fait quand elle célèbre la liturgie. Donc dans la bibliographie, donc la feuille sur la bibliographie, il y a justement le Concile Vatican II, Sacrosanctum Concilium, hein, la constitution sur la liturgie, et dont ce passage que vous avez entre les mains qui est important. Ensuite, il y a le Catéchisme de l'Église catholique aussi, qui a un chapitre, de nombreux numéros, de nombreuses pages sur la liturgie aussi, qui est aussi très intéressant. Hein, il a été écrit par le père Corbon, enfin c'est lui qui a écrit en premier, qui était un prêtre qui est mort maintenant, mais qui était un prêtre qui était de rite oriental, catholique de rite oriental. Donc il a un regard sur la liturgie où dans le catéchisme catholique, ce qui est intéressant, c'est qu'il donne le souffle oriental. Enfin, on sent que par exemple la place du Saint-Esprit, la place de la dimension ce qu'on appelle eschatologique, c'est-à-dire le ciel qui s'ouvre quand l'Église prie. Hein, il y a quelque chose qui est d'en haut, qui vient. Mais tout ça, c'est très présent. Hein. Bon, après, il y a tous les aspects qui sont bien présentés. Donc, après, bien sûr, l'introduction au missel romain, l'introduction générale au missel romain, qui a été réédité. Voilà. Puis après, un certain nombre de textes. Bon, je vous laisse les voir, je ne vais pas les reprendre, mais un certain nombre de textes du magistère. Hein, quelques manuels que je vous avais mis, et puis quelques études. Voilà, je ne reprends pas plus que ça. Voilà. Bon, la première chose que l'on peut dire sur la réforme liturgique du Concile et sur cette définition qui est décrite dans Sacrosanctum Concilium, c'est que ce n'est pas un texte qui est tombé comme ça du ciel, ils se sont mis autour des tables, les évêques, et puis ils se sont dit, tiens, mais qu'est-ce qu'on va dire là-dessus ? Ça a vraiment été longuement préparé, parce qu'en fait, il y avait ce qu'on appelle un vrai renouveau liturgique depuis de nombreuses années dans l'Église, bien avant le Concile. Hein, déjà, au XIXe siècle, Dom Guéranger, fondateur de l'abbaye de Solesmes, eh bien, a été un des principaux initiateurs du renouveau liturgique. Il n'était pas le seul, il y avait beaucoup dans le monde monastique, parce que le monde monastique, le cœur de la spiritualité des moines, c'est normalement de célébrer Dieu, et donc de célébrer la liturgie. Hein. Mais donc c'est beaucoup chez eux que ça s'est travaillé, mais pas uniquement, mais beaucoup chez eux. En France, en Allemagne, beaucoup aussi, et dans d'autres lieux. Mais voilà, bon, c'est les grands. Voilà. Et ce mouvement liturgique, ce renouveau liturgique a préparé le Concile. Il y avait un certain nombre d'études qui ont été faites, et ce qui fait que dans le Concile, quand ils ont parlé de la réforme liturgique, ils ont donné des points importants, des consignes importantes pour faire la réforme, qui correspondaient à un travail d'études qui avait eu lieu avant. Voilà. Donc, ce qu'il faut de fait se demander pour la liturgie, c'est qu'est-ce qu'est sa nature profonde, parce que sinon, donc, on tombe très vite dans les problèmes qui sont secondaires. C'est les problèmes rituels, les problèmes de rubricisme. Est-ce qu'il faut vraiment coller à ce que l'Église demande, ou est-ce que voilà, et on tombe dans tous ces travers qui sont, qui empoisonnent la réflexion sur la liturgie. Donc, ce que je peux dire, alors maintenant sur le texte lui-même, Sacrosanctum Concilium que vous avez. Dans le paragraphe 7, c'est le paragraphe le plus important, parce que c'est là que est redit, c'est là qu'on trouve une sorte de définition de la liturgie, hein, que j'ai surligné, que j'ai mis en gras exprès. Bon, je relis tout le paragraphe. La présence du Christ dans la liturgie. Pour l'accomplissement d'une si grande œuvre, le Christ est toujours là, près de son Église, surtout dans l'action liturgique. Il est là présent dans le sacrifice de la messe et dans la personne du ministre, le même offrant maintenant par le ministère du prêtre qui s'offrit lui-même sur la croix et au plus haut point sous les espèces eucharistiques. Il est présent par sa vertu dans les sacrements au point que lorsque quelqu'un baptise, c'est le Christ lui-même qui baptise. Il est là présent dans sa parole, car c'est lui qui parle tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. Enfin, il est là présent lorsque l'Église prie et chante les psaumes. Lui qui a promis, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Effectivement, pour l'accomplissement de cette grande œuvre par laquelle Dieu est parfaitement glorifié et les hommes sanctifiés, le Christ s'associe toujours l'Église, son épouse bien-aimée, qu'il invoque comme son Seigneur et qui passe par lui pour rendre son culte au Père éternel. C'est donc, à juste titre, que la liturgie est considérée comme l'exercice de la fonction sacerdotale de Jésus-Christ, exercice dans lequel la sanctification de l'homme est réalisée d'une manière propre à chacun d'eux, et dans lequel le culte public intégral est exercé par le corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire par le chef et par ses membres. Par suite, toute célébration liturgique, en tant qu'œuvre du Christ prêtre et de son corps qui est l'Église, est l'action sacrée par excellence, dont nulle autre action de l'Église ne peut atteindre l'efficacité au même titre, au même degré. Donc voilà, ce qui est très important, c'est que dans la liturgie, mais ça après on peut le reprendre de différents moyens, et puis de différentes manières, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'en fait dans la liturgie, celui qui agit en premier, le premier acteur de la liturgie, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui agit. Et ça, à partir du moment où on comprend ça, en fait, on réalise qu'il est normal que finalement la liturgie, ce ne soit pas nous qui la construisions. C'est-à-dire qu'on la reçoit, qu'on la vit, on la fait vivre, mais que c'est vraiment d'abord les gestes du Christ qu'on refait. Ah bon, le truc le plus facile, c'est bien évidemment, qui est d'ailleurs le cœur un peu de cette compréhension de la liturgie, c'est de dire « Faites ceci en mémoire de moi. » Il prend le corps, il prend le pain, il prend le vin, « Faites ceci en mémoire de moi. » Donc c'est vraiment ça. On fait ce que Jésus fait, mais c'est, en fait, c'est Jésus qui agit, qui fait. C'est Jésus qui fait toujours. C'est pour ça que dans la liturgie, on dit que la liturgie actualise les événements de la vie du Christ, actualise les actions du Christ. En fait, c'est toujours la même œuvre, et en particulier ce qu'on appelle le mystère pascal, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus, le mystère pascal, mort et résurrection de Jésus, qui est au cœur de notre foi chrétienne. Hein, si le Christ n'était pas mort, eh bien, il ne serait rien passé. S'il n'était pas ressuscité, on serait les plus malheureux de tous les hommes. Donc, et notre foi serait vaine. Donc la mort et la résurrection qui est au cœur de notre foi, hein, c'est ce qui fait qu'on est chrétien, c'est ce qui fait qu'on est sauvé, c'est ce qui fait qu'on peut espérer des choses tout à fait inimaginable, on va dire, eh bien, cette mort et cette résurrection, à chaque fois, se revit dans la liturgie. Hein, parce que c'est Jésus qui continue à mourir, ressuscité pour nous, non pas dans un nouvel acte. Hein, c'est, par exemple, il y a une compréhension de la messe qui n'est pas juste, qui serait de penser qu'il y a un renouvellement de la mort et la résurrection de Jésus. C'est-à-dire que Jésus meurt de nouveau et ressuscite de nouveau quand on célèbre la messe. Hein, c'est la dimension sacrificielle de la messe, il y a vraiment une dimension sacrificielle de la messe, C'est-à-dire que ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. C'est une réalité objective qui se réalise pendant l'Eucharistie. Donc c'est vraiment Jésus qui donne sa vie, qui donne son corps et son sang. Mais dans la continuité, dans l'unité avec la mort et la résurrection de Jésus d'il y a 2000 ans. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une actualisation. On rend présent l'événement passé, mais pas dans le sens comme on passe un film. C'est vraiment, c'est plus que du 3D aussi. C'est vraiment une véritable... On est au pied de la croix, quand on célèbre l'Eucharistie, on est au pied de la croix, présent, et on est au tombeau de la résurrection en même temps. On est, en tout cas, on vit vraiment cet acte-là, on est vraiment rendu présent à cet acte-là. Et c'est donc vraiment le Christ, par conséquent, c'est donc vraiment le Christ qui agit, puisque c'est lui qui offre sa vie, c'est lui qui ressuscite pour nous sauver. Et donc, après, dans le développement liturgique, parce que le cœur de la messe est plus facile à comprendre, mais en fait, tout le développement liturgique, tout est lié à ça. C'est ce que dit le texte, d'ailleurs, quand on proclame la parole, le Seigneur est présent. Le Seigneur est présent dans sa parole, car c'est lui qui parle, c'est le Seigneur qui parle, c'est lui qui parle, tandis qu'on lit les Écritures. Donc c'est vraiment, c'est Jésus qui agit. Alors on peut développer toutes les actions liturgiques tout au long d'une célébration. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on va faire on va commencer à le faire. Toutes les actions liturgiques peuvent être développées et mises en lien avec l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Christ, c'est vraiment lui qui agit. Voilà. Donc c'est Jésus qui agit en premier, mais pour cette œuvre, il s'associe son Église. Je cherche le passage. Pour l'accomplissement d'une si grande œuvre, de cette grande œuvre par laquelle Dieu est parfait. Alors, ça c'est un point important, parce que c'est exactement ce que Jésus a fait. L'œuvre par laquelle Dieu est parfaitement glorifié, c'est juste au-dessus le truc qui est en gras. Dieu est parfaitement glorifié et les hommes sanctifiés, donc Jésus glorifie le Père d'une façon parfaite, et il sanctifie les hommes, il sauve les hommes. Le salut est donné par Jésus. Donc voilà, par lequel, et donc dans la liturgie, ça continue. Dieu est parfaitement glorifié et les hommes sanctifiés. Le Christ s'associe toujours l'Église, son épouse bien-aimée, qui l'invoque comme son Seigneur et qui passe par lui pour rendre son culte éternel. Donc, l'Église est associée à l'action du Christ, qui est une action, on pourrait dire, éternelle, enfin, une action qui a été une action d'un moment, et qui est une action qui, donc, s'actualise. J'hésite toujours à utiliser d'autres mots parce pour pas tordre l'incompréhension. Donc en tout cas, c'est une action qui se poursuit, mais le Christ s'associe l'Église, donc son épouse, et l'autre image qu'on peut utiliser quand on parle de la liturgie, et d'ailleurs on retrouve dans le déroulement liturgique, on retrouve les deux images, donc à la fois l'épouse du Christ, l'Église épouse du Christ, qui répond au Christ, qui dit Amen, voilà, donc il y a tout ce dialogue entre Jésus et son Église qui entraîne, l'Église est aussi chacun des fidèles, l'Église épouse, et puis l'Église corps du Christ. C'est-à-dire qu'on est aussi le corps du Christ. Le Christ, il nous incorpore à sa vie divine par la grâce du baptême, et donc on fait partie de son corps, et donc avec lui, avec le Christ, on peut vivre les mêmes actes que lui. Et dans ce sens, quand l'Église dit dans le même concile, très connu, le passage très connu, à deux reprises, cette parole est dit, qu'il faut favoriser une participation consciente, fructueuse et active. Eh bien, en fait, c'est avant tout la prise de conscience à la fois de cette dimension dialogale avec Jésus qui agit, l'épouse, et en même temps, la prise de conscience qu'on est que son corps, donc il nous faut être conscient qu'avec Jésus on s'offre. Quand Saint Paul dit je complète dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ, mais ça peut se comprendre que dans cette idée qu'on peut s'unir au Christ tellement fortement, qu'on fait tellement partie de son corps, on peut tellement être uni, que tout ce que l'on vit prend de la force et de l'efficacité, on peut dire, de l'efficacité en union avec le Christ, avec Jésus, qui, lui, a transformé la souffrance, a transformé même le mystère de la mort, a retourné la mort, ce qui était le plus négatif, il en a fait une source de salut. Il a fait en sorte que ça puisse devenir une source de salut et de grâce. Donc, nous sommes invités à participer, à entrer dans le même mouvement que le Christ lui-même. Donc Jésus agit, mais il associe son Église, et donc nous sommes invités à rentrer dans le mouvement même du Christ et à prier avec lui et à offrir avec lui. Voilà. Toute célébration liturgique en tant qu'œuvre du Christ prêtre et de son corps qui est l'Église, donc après, quand on a ça, Christ prêtre et son corps qui est l'Église, on comprend tout de suite aussi pourquoi, finalement, dans la tradition de l'Église, il y a toujours eu un rôle pour un prêtre qui rend présent le Christ tête, qui est là, dans le corps. Donc, en tant qu'œuvre du Christ prêtre et de son corps, est l'action sacrée par excellence dont nulle autre action ne peut atteindre l'efficacité au même titre et au même degré. Donc c'est vraiment le cœur même de l'Église. À deux reprises dans les textes du Concile Vatican II, il est dit que, une fois pour l'Eucharistie et une fois pour la liturgie, que c'est la source et le sommet de la vie chrétienne, c'est-à-dire la liturgie. Mais par contre, à un autre endroit, alors là on ne va pas le dire parce que justement je ne voulais pas passer tout mon temps en reprenant l'enseignement de la dernière fois, mais j'ai remarqué, c'est sur le numéro 9, en haut du numéro 9, la liturgie ne remplit pas toutes les activités de l'Église. Voilà. C'est-à-dire que la liturgie est au cœur, c'est une source, c'est là où le Christ agit, mais ce n'est pas toute l'activité de l'Église. L'Église, elle est faite pour être missionnaire. Elle est faite pour répandre la bonne nouvelle. C'est quand même l'interpellation de Jésus, juste au moment de son ascension. Et puis c'est ce qu'on voit dans les actes des apôtres. C'est une activité essentielle de la vie de l'Église, c'est la mission. C'est pour ça qu'une Église qui n'est plus missionnaire pose d'énormes questions, même dans sa réelle vitalité, puisque c'est quand même le cœur même. Voilà. Et donc, ce ne remplit pas toute l'activité de l'Église, car les hommes puissent accéder. Il est nécessaire qu'ils soient appelés à la fois à la conversion. Bon, voilà, la mission. Voilà, bon. Et puis, toutefois, la liturgie est le sommet auquel, donc le paragraphe 10, toutefois, la liturgie est le sommet auquel tend l'action de l'Église et en même temps la source d'où découle toute sa vertu. Donc, voilà. Bon, là-dessus, je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Moi, je regarde rapidement si j'ai dit à peu près ce que je voulais. Oui, un point que j'ai dit, mais que je clarifie bien. La liturgie, donc, ce n'est pas un discours, ce n'est pas une méditation, ce n'est pas, je fais au négatif exprès, mais ce n'est pas simplement un temps de louange, où voilà, on offrirait quelques louanges à Dieu, quelques prières. C'est une action, c'est un travail. La liturgie, c'est un vrai travail. Il y a quelque chose qui se confectionne. Dans liturgie, il y a urgie, comme chirurgie, comme sidérurgie. Donc ça, c'est un travail sur la matière, ou sur l'homme, pour le guérir avec ça. Et c'est exactement ce qui se passe dans la liturgie. Il y a un travail qui se fait, il y a une œuvre qui se fait, il y a une action qui se réalise, c'est celle du Christ, avec son Église, mais qui transforme le monde et qui transforme nos vies, transforme les hommes. Après, évidemment, comme il n'y a rien de magique, puisque on est dans le domaine, dans une démarche d'ordre spirituel, où l'acte d'acquiescement personnel, le oui personnel, est fondamental pour qu'il se passe quelque chose. Bon, après, on se transforme plus ou moins selon qu'on se laisse faire ou pas. Voilà. Mais en tout cas, bon, c'est une action du Christ et une action de l'Église Voilà, tout à la fois. Voilà, et puis, donc dans le paragraphe 8, il y a aussi la dimension qui. Le paragraphe 8 dit, rappelle que la liturgie terrestre, dans la liturgie terrestre que l'on vit sur terre, comme le Christ est mort et ressuscité et monté aux cieux, nous a ouvert le ciel, a envoyé l'Esprit vers le ciel, en fait, la liturgie nous ouvre le ciel. Donc la liturgie terrestre, dans la liturgie terrestre, nous participons par un avant-goût à cette liturgie qui se célèbre dans la cité sainte de Jérusalem, à laquelle nous tendons comme des voyageurs, où le Christ siège à la droite de Dieu, comme le ministre du sanctuaire et le vrai tabernacle. Avec toute l'armée de la milice céleste, nous chantons au Seigneur l'hymne de gloire. En vénérant la mémoire des saints, nous espérons partager leur société. Nous attendons comme sauveur notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il se manifeste, lui qui est notre vie, et alors nous serons manifestés avec lui dans la gloire. Voilà. Donc la liturgie doit, par elle-même, ouvre la dimension céleste, d'où le fait que la liturgie ne peut pas, on ne peut pas se contenter simplement de faire des choses, comment dire, de faire quelque chose qui nous, où on aurait le sentiment qu'en fait on est comme dans un moment de fête familiale ou un truc comme ça. C'est évidemment que, et là l'artiste intervient, qu'il y a un certain nombre d'éléments qui vont être mis en place dans l'édifice liturgique pour que on prenne conscience, même sans se le dire, prenne conscience que là, le ciel descend sur la terre. Alors ça va dans le chant, ça va dans toutes les œuvres d'art qu'on va mettre en place dans les édifices, dans la manière de poser les gestes. C'est pour ça que, bon, enfin voilà, il y a des conséquences qu'on peut deviner. Voilà, en tout cas, ça aussi c'est un point important qui est très très présent, qui est présent dans toutes les liturgies, bien sûr, mais qui est très très, aujourd'hui, très très présent dans les liturgies orientales. Qui insiste énormément sur cette dimension eschatologique, d'où le rapport au temps qui est différent. Nous on est très occidentalisés, donc le rapport au temps, on dit oui, au-delà d'une heure, ça fait beaucoup, mais en fait, voilà, si on, dans la compréhension saine de la liturgie, le rapport au temps est modifié. Il y a un rapport au temps modifié. On n'est pas dans une réunion, dans un enseignement, machin, on est on rentre dans une autre sphère. Bon, de toute façon, tout à l'heure, enfin, je ne sais pas comment tu vas aborder le truc, mais la notion du temps, la liturgie prend le temps en main et gère le temps. Bon, moi, on verra. Voilà. Bien. Je pense que j'ai résumé à peu près le premier enseignement. Donc là, il me reste encore 20 minutes. Donc, je vais commencer, puis je continuerai au mois de mai. Là, je ne sais plus à quelle date c'est le prochain enseignement. Voilà. Donc là, donc la définition de la liturgie, je vous l'ai redonnée. Maintenant, on va voir quels sont les éléments qui interviennent dans l'action liturgique. Voilà. On a vu que c'était le Christ qui agissait, qui s'associait à son Église, mais quels sont, est-ce que finalement, en disant ça, ça suffit? Alors je m'inspire de plusieurs cours, entre autres d'un professeur que j'ai eu. Ce qui est un bénédictin, le frère François Cassingena, qui nous a introduit à une approche, un type d'approche. Il y en aurait d'autres, mais moi je vais vous proposer une approche. Alors là, cette approche est très simple. Quand Dieu a créé le monde, il y avait une certaine harmonie, et puis le péché est entré dans le monde, et donc cette harmonie de la création a été détruite. Non seulement la vie des hommes en a été modifiée, mais même l'ordre du monde a été. Il y a une sorte de dérèglement de la nature, de tout l'ensemble de la création. Et que va faire la liturgie? Quand on prend le livre de la Genèse, Dieu, quand il crée, il part du chaos et il va au cosmos. Il crée le cosmos. Il ordonne. Il part du chaos et il met de l'ordre et réordonne tout pour que ce soit beau. Eh bien, le péché donc désorganise tout, remet du désordre, et donc la liturgie aura pour rôle de remettre, refaire passer du chaos au cosmos, c'est-à-dire de remettre de l'ordre dans un désordre introduit par le mal et le péché. Donc la liturgie remet de l'ordre dans le désordre du péché, et elle fait une œuvre de recréation, puisqu'elle fait l'œuvre du Christ. Hein, donc le Christ, en mourant ressuscitant, en venant parmi nous et en mourant ressuscitant, nous recrée. Hein, c'est, bon, ça se dit facilement, c'est-à-dire qu'il nous reprend, il nous transforme, il nous donne une dignité supérieure même à la précédente. Donc elle remet de l'ordre, donc la liturgie remet de l'ordre dans tous les aspects de la création. Donc elle met de l'ordre dans le temps, dans l'espace, dans l'humanité, même en premier lieu, et puis même l'écriture sainte est ordonnée par la liturgie. Ça, on pourrait le voir de façon plus approfondie, voir comment la liturgie utilise la parole de Dieu, comment elle la répand, comment elle la distribue dans l'année, dans la journée. Mais c'est vraiment la Bible toute seule, sans la liturgie. On peut la lire du début à la fin, pourquoi pas. Hein, mais bon, en même temps, c'est la liturgie qui nous donne, qui nous la propose selon un certain ordonnancement qui nous permet de mieux s'en nourrir. Alors, les pères de l'Église parleront d'ordre et d'harmonie. Hein, donc, d'ordre et d'harmonie créés par la liturgie, qui est, encore une fois, je le redis, mais pour que ce soit bien sûr, qui est la continuation de l'œuvre du Christ. Hein. On dit parfois que c'est la continuité de l'incarnation du Christ. C'est Christ qui continue son œuvre dans le temps. Hein, même 2000 ans après, nous sommes toujours rendus présents à cette œuvre du Christ, et en particulier au mystère pascal, la mort et la résurrection de Jésus, qui nous sauve, pour reprendre le terme que j'ai utilisé tout à l'heure, qui recrée la dignité humaine. Voilà. Donc, les pères de l'Église parlent d'ordre et d'harmonie retrouvée. Alors, saint Cyrille de Jérusalem, il dit ceci. « Tu es entré, tu as été jugé digne d'être admis au baptême. Ton nom a été inscrit. » Alors, il parle aux jeunes baptisés, hein, comme c'était souvent pour les pères. « Regarde-moi un peu cette organisation impressionnante de l'Église. Considère un peu l'ordre et la discipline, la lecture des Écritures, la présence des membres du clergé, la suite logique de l'enseignement dispensé. Respecte le lieu, instruis-toi de tout ce qui t'apparaît. » Voilà, donc c'est c'est l'œuvre de la liturgie, ça va être de remettre. Donc la fonction cultuelle liturgique, la fonction du culte de l'Église, ça va être d'orienter, de délimiter, de proposer des ordres divers, enfin selon dans tous les éléments, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, le temps, l'espace, etc. Toute la création jusqu'à ce jour gémit en son travail d'enfantement. C'est l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 22. La liturgie permet à la nature tout entière, à toute la création, de déjà commencer sa transformation, qui sera parfaite à la parousie, à la fin des temps, hein, où tout sera transformé. Hein. Mais c'est déjà, cette œuvre commence déjà au cœur même de la liturgie. La liturgie manifeste à la création sa fidélité, hein, elle montre le but, elle anticipe l'accomplissement, et par conséquent libère la création. La création atteint son but dans la liturgie, par anticipation. Hein, c'est comme nous d'ailleurs. Voilà. Par exemple, le soleil prend tout son sens lorsque l'on le chante comme le signe du Christ. Donc le soleil lui-même porte en lui, on lui donne la possibilité de porter en lui une signification, et il est à la gloire de Dieu quand on reconnaît en lui un symbole du Christ. Voilà. Donc on peut dire aussi que la liturgie provoque comme un écosystème du monde à venir, c'est-à-dire un petit espace où déjà il y a quelque chose de la fin des temps qui est là, la dimension eschatologique. Voilà. Alors, si on reprend maintenant les différents aspects qui sont mis en marche, qui sont mis en ordre, on va dire, par la liturgie, hein, où le Christ, la fécondité du Christ se répand dans tous les aspects, eh bien, moi je vais prendre l'humanité d'abord, je vais commencer par l'homme, hein, parce que je pense que c'est toujours intéressant quand même. Et puis ensuite, je regarde l'homme, ensuite le temps, et puis le temps, l'espace, et enfin le quatrième point, c'est l'écriture. Voilà. Alors, l'homme. Voilà. La liturgie propose à l'homme d'être complètement restauré et de retrouver sa beauté originale, voire même une beauté supérieure. Ah bon, ben ça, on le sait assez bien, puisque quand on dit qu'on est baptisé, on est régénéré, quand on communie, on est nourri par la présence divine, comme dit saint Augustin, hein, quand on mange le corps du Christ, normalement, dans une nourriture normale, le plus faible, donc la nourriture, est assimilée par le plus fort, le corps humain. Mais quand on mange Dieu, on ne peut pas assimiler Dieu. Et en fait, il dit, dans ce cas-là, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Dieu qui nous assimile en lui, qui nous transforme progressivement en lui. Hein, donc c'est une belle image de ce qui passe dans l'Eucharistie. Voilà. Dans la liturgie, nous devançons ce que nous sommes et ce à quoi nous sommes appelés. La liturgie est l'affaire du peuple, comme son nom l'indique, hein, parce que dans liturgie, il y a laïque, il y a l'idée de laïque, et puis après urgie, hein, donc ce que je disais tout à l'heure. C'est l'affaire du peuple, comme son nom l'indique, mais pas un peuple uniforme. Il n'y a pas d'égalitarisme dans la liturgie, il n'y a pas d'anarchisme non plus, mais une vraie structure organique voulue par Jésus-Christ au départ, mais qui était déjà présente, il y avait une structure qui existait déjà dans le peuple de la première alliance, le peuple juif. Voilà. Le peuple est liturge, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment le peuple qui célèbre la liturgie tout entier, mais de façon organisée, comme un corps. Hein, les membres, comme dit saint Paul aux Romains, chapitre 12, verset 4, les membres n'ont pas tous la même fonction, hein, et ça, il faut pas, parce que si le pied veut être la tête, ça ne va pas marcher. Hein, donc la liturgie est donc elle-même organisée avec chacun sa place, une place différente, chacun, voilà. Donc, la liturgie présuppose le baptême pour être incorporé au corps du Christ, hein, et puis pour exercer son sacerdoce commun, mais est structurée, le corps de l'Église est structuré par la structure ministérielle, donc ceux qui sont ordonnés, diacres, prêtres et évêques, qui sont ordonnés pour organiser l'Église et pour organiser aussi la liturgie elle-même. On a besoin les uns des autres comme signe d'un besoin de l'autre avec un grand A. Le fait d'avoir besoin, par exemple, de ne pas faire de messe sans prêtre, eh bien, ça nous dit qu'on a besoin de l'autre, de Dieu, de Jésus, pour vivre. Donc, on n'est pas autosuffisant. Voilà. Le sacrement de l'ordre, donc bizarrement le nom que porte le sacrement laisse entendre aussi l'œuvre de Dieu. Le sacrement de l'ordre crée la distance vitale au dialogue et à la communication. On ne peut pas communiquer avec quelqu'un si on est complètement fusionnel. Mais c'est parce qu'il y a une altérité qu'on va pouvoir vraiment dialoguer et entrer dans une communication qui va devenir une communion. Voilà. Donc c'est le rôle même, enfin, c'est un des rôles essentiels du sacrement de l'ordre, ça va être de pouvoir permettre à ce que le peuple, dans sa diversité, dans la diversité des vocations, puisse dialoguer avec Dieu et puisse ressentir qu'il a besoin d'un autre qui est au-dessus de nous. Voilà. Si la liturgie crée donc de l'ordre dans le corps de l'Église, hein, eh bien, elle crée aussi de l'ordre en moi. Elle fait aussi en moi une œuvre, en moi-même. Mais, alors ça c'est un point important, hein, mais un point important de spiritualité, mais de théologie, c'est-à-dire que ça suppose vraiment une démission de moi-même, de mes priorités momentanées égoïstes, de ne plus laisser l'homme pulsionnel guider ma vie, mais de laisser l'homme nouveau grandir, hein, c'est-à-dire l'œuvre du Christ en moi. de vraiment. Donc là, le Seigneur aussi fait un travail en nous de transformation, où il remet de l'ordre. Par exemple, un truc très classique, quand on fait une retraite, souvent on s'en aperçoit, c'est que Dieu remet de l'ordre dans nos priorités. Parce que souvent, il y a le désordre. Mais c'est partout comme ça. C'est tout, toute la... Donc, la liturgie nous prend, mais en nous demandant de nous déprendre de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut se laisser faire en liturgie. Il faut se laisser prendre par le Christ. Voilà. Nous sortons de nos petitesses, mesquineries et soucis. Et puis, donc il faut accepter de se déprendre de soi, de se laisser faire par le Christ, pour pouvoir dire, comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, hein, c'est l'œuvre au final de Dieu. Et puis, Dieu, progressivement, donc si on se laisse faire, Dieu nous accorde à lui-même, hein, par ce travail qu'il fait de nous-mêmes. Il y a une image, par exemple, vous savez, les vases sacrés, puisque j'avais préparé un petit peu l'enseignement sur la question des symbolismes pour les sacristains plus. Il y a par exemple les vases sacrés dans la symbolique, hein, c'est eux qui vont tenir le pain, le vin, le corps et le sang du Christ. Eh bien, c'est cette image du potier qui façonne, hein, cette image biblique du potier qui façonne, qui nous façonne comme il souhaite qu'on en devienne, hein, et à sa ressemblance. Et donc les vases sacrés sont cette image-là de l'humanité transformée progressivement et qui porte la présence de Dieu en lui. Donc voilà, Dieu nous accorde à lui. En nous empêchant de tant penser à nous-mêmes, la liturgie nous fait vivre. Elle nous déprend de nous, elle nous invite à nous arrêter de regarder que nos problématiques personnelles et nous-mêmes, et nous donne de pouvoir vivre vraiment. Voilà. La religion la plus haute, qui est adoration désintéressée et pur amour. Elle nous donne de pouvoir faire cet acte d'adoration désintéressée et de pur amour. Nous nous retrouvons vraiment grâce à cette œuvre de la liturgie qui nous fait vivre, qui nous permet de vivre. Elle rectifie, bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, elle rectifie la hiérarchie de nos préoccupations, elle remet de l'ordre dans notre vie. Alors, il y a une hymne qui est parfois utilisée dans la liturgie occidentale depuis le Concile, mais c'est une hymne de type oriental, une hymne byzantine, qui dit ceci, ça s'appelle l'hymne des chérubins, qui est toujours chantée à l'offertoire, au moment de l'offertoire. Le moment de l'offertoire, en fait, c'est un moment très très important, justement, pour on se met avec le Christ. C'est-à-dire que la quête, le mouvement de procession des offrandes, c'est une invitation pour dire qu'il faut rentrer dans les patènes, quoi. Il faut offrir sa vie pour pouvoir être transformé. Il faut se déprendre de soi, il faut s'offrir au Christ pour que le Christ nous transforme et que par la communion eucharistique en particulier, eh bien, nous ayons une transformation réelle. Et donc, au moment de l'offertoire, c'est un moment important. C'est pour ça que Paul VI tenait à tout prix qu'on ne supprime pas, justement, la présentation des offrandes de façon très correcte et surtout que l'on propose les processions d'offrandes et tout ça, parce qu'il y en avait qui étaient tentés par tout supprimer cette partie-là. Voilà, parce qu'il se passe quelque chose d'important dans l'offrande de nous-mêmes. Et donc, les orientaux chantent l'hymne aux chérubins, à chaque Eucharistie, et disent « Nous, qui mystiquement représentons les chérubins et chantons à la vivifiante Trinité l'hymne trois fois saint, déposons tous nos soucis, tous soucis du monde, afin de recevoir le roi de l'univers, escorté invisiblement des armées angéliques. Alléluia. Déposons tous soucis, tous les soucis du monde. » Et saint Jean Chrysostome dira lui aussi que la liturgie est la médecine de nos âmes. C'est le médecin, c'est le Christ. La liturgie, c'est la médecine, c'est le travail sur nos âmes. Voilà. Donc, la liturgie est l'acte du Christ et de son Église, mais plus précisément, certains théologiens diront donc que cet acte, donc j'en ai déjà parlé suffisamment, hein, l'acte, l'action du Christ et de l'Église, que cet acte est une rencontre et que cet acte est un geste. Donc, deux expressions que suppose l'acte, mais disent davantage que l'acte. La rencontre rajoute un élément physique. Et le geste, celui d'un mouvement, sensible, saisissable, qui fait participer tous nos sens. La compréhension de la liturgie comme acte du Christ, mais plus que cela, comme rencontre du Christ. Donc en fait, dans la liturgie, il y a vraiment un contact physique avec Dieu et avec le Christ qui se vit. Et aussi un geste du Christ, donc, qui nous ouvre au fondement théologique de la beauté liturgique. C'est-à-dire que si c'est le Christ qui fait un geste, qui est en mouvement, qui agit, il n'y a pas plus beau que Dieu. Toute beauté vient de lui. Donc, automatiquement, la liturgie se doit d'être belle pour exprimer ce geste du Christ, et non pas un geste banal. Donc c'est le fondement théologique de la beauté liturgique et de l'esthétique dans la liturgie. Cette approche essentielle nous invite à considérer l'art et le travail de l'artiste comme un élément important de la liturgie. Donc le fait du geste. Bon, donc c'est un acte, donc une rencontre et un geste. Donc deux points, à la fois ce contact physique et puis ce geste concret, cette action. Il y a vraiment quelque chose qui bouge. L'intelligence de la liturgie n'est pas d'abord intellectuelle, mais elle est plus globalement corporelle à cause du geste et à cause de la rencontre, contact physique. Donc elle fait intervenir les sens, et donc la liturgie est physique. Comme disait d'ailleurs c'est un Vendéen, je ne sais comment il s'appelle, qui est liturgiste, Louis-Marie Chauvet, il dit « Ce qu'il y a de plus spirituel passe dans ce qu'il y a de plus basique, naturel, matériel et tout ça, c'est-à-dire que l'Eucharistie qui est l'acte, qui est la chose la plus haute qu'on puisse imaginer dans l'œuvre des hommes, puisque c'est carrément Dieu qui se fait présent et puis qui se donne à nous, et bien ça va passer par la nourriture. Donc vraiment. Et donc en fait, il y a vraiment quelque chose de très physique dans la liturgie. Le plus spirituel va passer par le plus physique qui soit, la plus basique. Et à travers ça, Dieu transforme. Voilà. Pour la liturgie elle-même, comme pour la catéchèse, on devrait abandonner une approche souvent trop rationaliste et pour entrer dans une compréhension qui soit d'abord physique, comme les pères de l'Église l'ont fait. Donc d'abord être rejoint dans notre expérience, dans nos sens, et ensuite comprendre davantage par une réflexion ce qui se passe en liturgie. Parce que si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est en fonction de notre conscient intellectuel, notre capacité intellectuelle, qu'on va pouvoir vivre la liturgie. Ça veut dire que les handicapés mentaux, ils en sont privés, que les enfants, c'est pas non plus, c'est pas leur affaire. Voilà. Donc, par contre, si on se dit, la liturgie, c'est vraiment une affaire très physique, très concrète, il se passe des choses, on vit des choses, mais à travers ça, c'est le Christ qui nous enseigne quelque chose de très haut, eh bien là, dans ce cas-là, la liturgie est ouverte vraiment à tous. Voilà. Et pour les pères de l'Église, ils ne donnaient, à la différence de maintenant, parce que maintenant on a du mal à ça, ils ne donnaient jamais d'enseignement sur la liturgie, sur les gestes liturgiques, tant que la personne n'était pas baptisée. C'est-à-dire avant le baptême, on faisait des trucs sur la parole de Dieu, sur le Notre Père, on expliquait le credo, etc. On commentait tout ça, les textes, les contenus de notre foi et tout ça. Mais ils attendaient le baptême. Et une fois que les gens étaient baptisés, ils les retrouvaient pendant la semaine qui suivait Pâques, tous les jours, souvent le soir, parce que les gens travaillaient en journée, le soir, et ils leur expliquaient, les pères de l'Église expliquaient aux nouveaux baptisés, qui étaient nombreux dans certains endroits, maintenant que vous avez vécu, vous avez senti, vous avez touché le Christ, maintenant je peux vous expliquer, avant vous n'auriez rien compris, vous seriez passé à côté, vous auriez était trop dans les idées, et là, maintenant, c'est concret, c'est physique, c'est tout ça. Voilà. Bon, je termine rapidement. La liturgie, le langage liturgique ne s'adresse pas seulement à l'intellect, mais à l'homme tout entier, corps, sensibilité, affectivité. C'est d'ailleurs ainsi qu'il se fait entendre, non seulement de tout homme, mais de tout l'homme. Quel que soit son âge, son degré de culture, son conscient intellectuel, etc., ce que je disais. L'univers liturgique possède ainsi une cohérence particulière, où les parfums, les couleurs, les sons se répondent. Donc il y a une harmonie, enfin bon, ça il faudrait reprendre, mais il y a une harmonie qui... Il y a pas de... On ne peut pas dire qu'on met quelque chose devant l'autre. Hein. C'est vraiment un ensemble, une liturgie qui serait que de paroles, c'est plus une liturgie. C'est un discours, je ne sais pas ce que c'est une belle prière peut-être, non. La liturgie concerne donc le corps, position, attitude, geste, mouvement. Elle s'adresse à tous les sens, l'encens, les icônes, les images, les lumières, les chants. Elle intègre les grands éléments du cosmos, l'eau et le feu, etc. Elle assume l'humble réalité quotidienne, le pain, le vin, l'eau, l'huile, pour transmettre les énergies divines. Bref, elle prend l'être humain dans un réseau symbolique global où il se trouve lui-même intégralement assumé. Certes, pris un à un, tous ces éléments peuvent paraître secondaires, inutiles ou contestables, mais si la liturgie est essentiellement un jeu, elle demande non pas à être critiquée, mais à être mise en œuvre par tous et par chacun. Il s'agit, comme le font les enfants dans la simplicité de leur cœur, d'entrer dans le jeu liturgique pour être touché par le Christ et transformé par lui, progressivement. Voilà, nos cinq sens sont mis à contribution dans la liturgie. Les actions liturgiques font appel à eux. Ce n'est pas un faux spiritualisme ou rationalisme qu'on le Ce n'est que par un faux spiritualisme ou rationalisme qu'on le refuse trop souvent. Hein, l'appel de faire intégrer les sens dans la liturgie. Les sacrements, notamment, ont été trop souvent intellectualisés ou spiritualisés, au point que beaucoup de gens les comprennent en se rappelant leur catéchisme, plutôt qu'en ouvrant les yeux et les oreilles pour voir ce que l'on fait, pour écouter ce que l'on dit. Voilà, certaines réactions viennent. Pourquoi ce cinéma ? À quoi bon ? Puisqu'il suffit de comprendre, d'avoir une conscience claire et distincte de ce qu'on vit. Non, la liturgie est d'abord une action, plus qu'un problème à comprendre. Nous avons besoin de nous redire pour ne pas faire et vivre à la liturgie à moitié, où on enlèverait le facultatif, et on ferait au plus simple et au plus court, comme si c'était simplement une affaire de compréhension, d'abord intellectuelle. Or, il faut vivre, toucher et sentir. Voilà, bon, j'arrête là. Après, je continue. Bon, ça va, vous avez réussi à suivre ? Vous avez des questions éventuelles ? S'il y a des choses qui ne sont pas claires, je ne sais pas trop.
On écoutera.
Quarante-sept minutes.